l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrice Burger du CARI, le Centre de Recherche et d'Action Internationale, qui se situe à Viols-le-Fort et qui a déjà, bien sûr, beaucoup fait pour faire connaître tous les problèmes de l'agroécologie et qui continue, puisque en 2015, nous avons eu une grande manifestation qui s'appelait Désertification, qui s'est déroulée à Montpellier avec plus de 300 participants qui venaient également aussi du Sud. Et puis, vous étiez présent à Marrakech à la COP22.
Oui, bonjour Madeleine, bonjour FM+, et les auditeurs, merci de ce rendez-vous d'information. Oui, le CARI est une ONG basée dans l'Hérault, à Viols-le-Fort. Enfin, c'est une petite décision, je dirais, ancienne déjà, de nous installer dans un village plutôt qu'en ville. Ça fait un peu partie de nos réflexions internes. Et c'est vrai que le CARI, depuis des années, est investi dans les questions d'agroécologie. Vous avez parlé, Madeleine, de problèmes de l'agroécologie. Je dirais plutôt de solutions de l'agroécologie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est des solutions qui s'imposent dans de nombreux domaines. Et on voit bien que la nécessaire transition de l'agriculture dans le monde passera, on en est maintenant à peu près certain, par des solutions d'agriculture dites écologiquement intensives, c'est-à-dire dans lesquelles on a intensifié la partie écologique, et l'agroécologie, bien sûr, en fait partie. Donc c'est sur cela qu'on travaille. Souvent, le CARI appuie des acteurs du Sud dans des pays, dans les zones arides, puisque c'est un petit peu notre domaine de compétence, en matière d'appui technique, en matière de formation, auprès des agriculteurs et surtout auprès des associations d'agriculteurs ou des organisations professionnelles agricoles dans le Sud. L'autre spécialité du CARI, vous l'avez rappelé avec Désertification, c'est que le CARI s'est lancé depuis quelques années dans l'organisation des réseaux d'acteurs. Et on s'est aperçu que pour peser sur la décision locale, nationale, voire internationale, il faut s'organiser. Et c'est la raison pour laquelle le CARI s'est lancé dans plusieurs constructions de réseaux internationaux, donc le RADO, le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis, qui couvre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie pour la sauvegarde des agroécosystèmes oasiens. Et le RESAD, le Réseau Sahel Désertification, qui est un réseau de plateformes d'ONG au Mali, au Burkina et au Niger, qui s'occupe plus particulièrement de la lutte contre la dégradation des terres et la désertification. Donc ça, c'est vraiment deux réseaux dont le CARI est coordinateur, mais il est aussi très actif dans d'autres réseaux, comme par exemple le réseau PSO, Programme Solidarité-O, qui est un réseau d'acteurs français qui s'occupe de coopération, développement, d'accès à l'eau et à l'assainissement dans différents pays du monde. Et puis le CARI est aussi membre de DryNet, il a été membre fondateur de DryNet, qui est le réseau de référence mondiale sur la lutte contre la dégradation des terres. Et enfin, le CARI anime en France un groupe qui s'appelle le groupe de travail désertification, qui sont les ONG françaises qui sont impliquées dans ce domaine. Et très récemment, nous avons aussi décidé de constituer avec Agriculteurs et Vétérinaires Sans Frontières, donc AVSF, le GRET, et AgriSud International, et donc le CARI, un petit groupe de travail sur l'agroécologie, puisque nous pensons que le temps est venu maintenant pour rassembler nos forces en matière d'agroécologie, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau national, puisqu'actuellement, il y a des initiatives en cours portées par la France, comme l'initiative 4 pour 1000, et nous avons aussi les initiatives internationales, les objectifs de développement durable. Donc nous pensons là, partout, que l'agroécologie a son mot à dire, et c'est la raison pour laquelle nous nous organisons ensemble.
D'ailleurs, l'agroécologie maintenant est reconnue même par de grands organismes comme la FAO. Et il y a eu un rapport, je crois, d'un rapporteur de l'ONU en 2011 qui disait que c'était vraiment l'agriculture de l'avenir.
Oui, c'est le rapport, vous faites référence à le rapport d'Olivier de Schutter, qui a effectivement fait un rapport qui montre que l'agroécologie est une solution pertinente et performante, et notamment pour la sécurité alimentaire. Mais il y a eu d'autres rapports qui, avant, sont sortis, et notamment ce rapport d'évaluation sur les systèmes de technologie agricole dans le monde, dont d'ailleurs l'un des intervenants de la journée du 25, dont on va parler tout à l'heure, Bernard Hubert, a été un des rapporteurs, a été un des auteurs. C'est un rapport qui déjà montrait que dans beaucoup de pays du monde, l'agroécologie était une solution performante.
Voilà, alors donc, vous avez participé à Marrakech et vous êtes content l'écho que vous avez obtenu à la COP22, puisque plus de 24 000 personnes ont visité votre stand.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que plus de 24 000 personnes ont visité notre stand, mais on y était pendant 15 jours. Et dans la zone verte de la conférence des parties à Marrakech, cette zone verte qui était ouverte au grand public. En fait, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 24 000 personnes par jour qui pénétraient dans cette zone, et je pense que tous les jours, il y avait au moins entre 1 000 et 2 000 personnes qui ont passé d'une manière ou d'une autre sur notre espace collectif qui s'appelait Oasis et Zone Aride, avec des acteurs associatifs marocains, des acteurs associatifs d'autres pays que nous avions fait venir, puisqu'il y a des bailleurs de fonds qui nous ont permis d'inviter d'autres. Et nous avions là un programme d'explication, de pédagogie, des documents aussi, des expositions, et ce qu'on appelle les side events ou des événements parallèles, où nous prenions la parole pour parler de différents sujets, agriculture et climat, gestion de l'eau et climat, etc. C'est-à-dire nous rapportions nos sujets sur l'agriculture et la terre aux questions climatiques. Et c'était un franc succès puisque nos salles débordaient de monde, ne pouvaient jamais accueillir toutes les personnes qui voulaient assister à ces discussions. Et on a même eu, petite cerise sur le gâteau, le président de la République, François Hollande, qui est venu nous voir sur notre espace.
En effet. Alors, on va écouter un peu de musique marocaine pour rappeler ce grand événement. Pas seulement agissant sur les problèmes africains, par exemple, comme nous avons dit avec tous ces réseaux, mais vous voulez aussi que le citoyen lambda de France puisse réfléchir à tous ces problèmes, puisque vous organisez conjointement avec Agropolis International une journée samedi prochain, 25 février, à Pierre-Vive. Et cette journée s'intitule « Climat, biodiversité, désertification, quels enjeux pour la planète, décryptés pour mieux agir ensemble ».
Oui, alors c'est une entente et une bonne collaboration avec Agropolis International et le CARI sur notre constat réciproque et mutuel qu'il est temps maintenant d'engager plus fortement le dialogue avec la société civile sur les grands enjeux de société qui concernent l'environnement. Les grandes conventions internationales, telles qu'on les voit dans la presse avec des titres que les gens ne comprennent pas toujours, la COP 22, la COP 13, etc., il y a une espèce de suspicion qui pèse sur ces réunions internationales dont on se demande toujours qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce qui se négocie, etc. Sauf que il est temps maintenant de se rendre compte que ces grandes décisions internationales, même si elles ne sont pas contraignantes pour les États, c'est un point important qu'il faut savoir. Les décisions des Nations Unies, il n'y a pas de police qui vous oblige à mettre en œuvre ce que vous décidez ensemble. Toutefois, pour des problèmes aussi importants que le changement climatique, on voit bien que les États maintenant prennent plus ou moins des décisions. Et ces décisions s'appliquent localement. Donc nous avons nos services de l'État français, par exemple, et ici en Languedoc-Roussillon, la région Languedoc-Roussillon, qui doit mettre en œuvre des plans d'action climat, des plans qui tiennent compte de la question de la désertification, des plans qui tiennent compte de la dégradation des terres et notamment l'application des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 à New York. Voilà pourquoi nous pensons que c'est très important d'ouvrir beaucoup plus vastement, plus fortement, le dialogue avec la société civile. Et nous nous sommes dit, nous qui sommes des acteurs associatifs, quoi de mieux que d'amener à la table des discussions des scientifiques qui nous aideraient à comprendre de manière la plus pédagogique possible quels sont les enjeux, où nous en sommes, quel est l'état de la décision et en quoi les personnes, les familles sur les territoires, et notamment le territoire héraultais ou dans cette région Occitanie, en quoi cette région et la vie de tous les jours est impactée. Le temps est venu de faire ça et on constatera aussi dans cette journée-là que le citoyen a une place, il y a une possibilité d'interagir, c'est-à-dire que les décisions ne viennent pas uniquement d'en haut, il y a effectivement une place pour la discussion citoyenne. Et en tout cas, nous voulons nous lancer dans cet exercice.
Alors, c'est tout à fait original le début de cette rencontre, puisque vous donnez la parole à un jeu théâtral.
Oui, alors c'est un... qui dit dialogue avec le grand public et décloisonnement dit aussi peut-être des nouvelles manières de procéder. Si vous avez un expert qui vous explique avec des termes très scientifiques ce dont il est question, c'est plus difficile que si vous avez des mises en pédagogie. Donc là, il y a un théâtre forum, c'est-à-dire c'est une technique qui permet au public d'interagir avec ce qui est dit. Donc il y a l'équipe de personnes d'Agropolis International qui ont eu envie de proposer un théâtre forum. Donc ce sera un certain nombre de scénettes qui mettent en situation des enjeux sur les questions environnementales et le public pourra interagir, c'est-à-dire il pourra prendre la place de tel ou tel acteur parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit tel ou tel acteur ou parce qu'il n'est pas d'accord avec le rôle qui est joué par tel ou tel acteur. Par exemple, un politicien qui accepte tout ce qu'on lui dit, par exemple, un citoyen qui ne joue pas son rôle d'acteur et qui n'a pas d'attitude citoyenne, par exemple, un administratif qui refuse d'appliquer une directive. Vous voyez, c'est ce type de choses sur lesquelles les gens pourront réagir. Ça, c'est toute la matinée.
Toute la matinée, de 10h15 à 12h, en effet. À partir de 10h, on peut s'inscrire sur place. Ensuite, il y a un buffet offert, d'ailleurs, à tous les participants. Et puis, vous reprenez le travail à 13h30 avec, justement, l'étude de ces trois conventions importantes pour le climat.
Alors, elles sont ces trois conventions, c'est pas seulement sur le climat, c'est les trois conventions de Rio, nées à Rio en 92. C'est la convention cadre sur le changement climatique, dont on parle beaucoup, qui fait effectivement beaucoup parler d'elle. Mais il y a aussi la convention sur la protection de la biodiversité, qui est également importante. Et puis, il y a la convention des Nations Unies de lutte contre la dégradation des terres et la désertification. Les gens pensent tous que c'est lutter contre le désert. Non, c'est pas ça. C'est lutter contre la dégradation des terres et des écosystèmes terrestres dont les sols constituent le soubassement. En fait, s'il n'y a plus de terre sous nos pieds, si la terre s'en va sous nos pieds, il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus de biodiversité possible. Et s'il n'y a plus de biodiversité possible, c'est-à-dire nous-mêmes, notre vie n'est plus possible. Donc, ces trois conventions sont liées. C'est un des grands messages que nous aimerions faire passer.
Alors, quels sont les intervenants de cette journée ?
Alors, on a vraiment des intervenants formidables. Nous ne pensions pas au départ avoir des personnes de ces pointures. Mais, par exemple, il y a Pierre Radan, qui est vraiment un des anciens. Il a été conseiller de certains ministres. Il a été responsable de l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mais c'est un homme surtout qui est passionné et passionnant. Lui, il va nous mettre un petit peu en scène les enjeux de ces grandes conventions, et il le fera avec pédagogie et avec enthousiasme. Ça vaut la peine. Ensuite, il y a d'autres intervenants, comme Sébastien Treyer, qui est un des responsables de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI, et qui, lui, c'est un think tank, c'est-à-dire c'est une organisation qui réfléchit un petit peu en direction des pouvoirs publics et des scientifiques sur les enjeux. Il y aura Didier Babin, qui est un chercheur, qui est membre du CIRAD, et qui est membre de la coordination du programme Homme et Biosphère de l'UNESCO. Il y a Jean-Luc Schott, un Montpelliérain, qui est lui directeur de recherche à l'Institut de Recherche et de Développement, qui lui travaille sur la capacité des sols à séquestrer ce fameux carbone qui est en excès dans l'air, en provenance des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura aussi, nous avons invité deux personnes du Sud, il y aura Pierre Omer Ouedraogo, d'une plateforme d'ONG du Burkina, justement, du RESAD, donc le regard du Sud, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là par rapport à ces conventions. Et il y aura Lassen Kabiri, du Maroc, qui est un chercheur aussi, qui est un enseignant-chercheur habitant le sud du Maroc, mais aussi président d'une association très engagée dans la sauvegarde des oasis. Et bien sûr, il y aura Bernard Hubert, le président d'Agropolis International, et moi-même. Et on va essayer de faire de cette journée vraiment une journée de dialogue, de débat citoyen, pour que chacun puisse un petit peu mieux saisir de manière claire et abordable les enjeux de ces conventions internationales et en quoi elles ont de l'impact pour nous. Pourquoi nous pensons que c'est important ? Regardez ce qui se passe au niveau de l'Europe. Si aujourd'hui il y a si peu de sentiments d'appartenance à l'Europe, c'est qu'on n'en a pas assez parlé. Je me permets de faire cette comparaison. Je pense que les conventions internationales sur l'environnement, elles ne seront véritablement opérationnelles que si les gens les comprennent bien, s'il y a un débat citoyen et qu'on n'a pas l'impression que c'est des choses qui sont décidées ailleurs, par d'autres, et qui nous tombent dessus et qu'on n'a qu'à appliquer. Donc c'est une expérience, j'espère que tout le monde sera intéressé, et que, en tout cas, venez nombreux, je pense que ce sera une journée passionnante et passionnée.
En effet, alors je rappelle le rendez-vous à 10h pour s'inscrire, il est inutile de s'inscrire à l'avance. Vous pouvez vous rendre à Pierre-Vive, au domaine départemental 907 avenue du professeur Blayac à Montpellier. Vous pouvez y aller en tram, puisque vous prenez la ligne 1, arrêt Halle de la Paillade, la ligne 3, arrêt Hôtel du département, ou le bus 19, arrêt lycée Léonard de Vinci.
Ben merci, ça c'est des super informations pratiques.
Voilà, et est-ce que vous pouvez aussi, Patrice, nous donner le contact avec le CARI pour les auditeurs qui voudraient vous contacter ?
Oui, alors actuellement nous sommes en équipe un peu restreinte au CARI, donc le CARI c'est à Viol-le-Fort, donc il y a un site internet, www. www.asso.carie.org. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous téléphoner au CARI au 04 67 55 61 18.
Alors pour ceux qui voudraient voir le programme en détail, ils peuvent se reporter aussi au site d'Agropolis www.agropolis.fr/COP-DECRYPT et avoir le programme complet, mais vous venez de le détailler. Merci beaucoup, Patrice. Alors, je rappelle aussi que vous éditez une newsletter qui s'appelle CARI Éco.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette newsletter. Et j'ajoute que les réseaux Rado et Rezad ont eux aussi leur newsletter. Donc là aussi, il est possible de s'inscrire si on veut des nouvelles plus particulièrement en provenance du Sud.
Alors, je rappelle maintenant le calendrier qui va se passer pour cette semaine. Eh bien, tout d'abord, le café actualité du Centre Documentation Tiers-Monde, demain, mardi 21 février, de 12 à 14 heures, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Nous aurons le plaisir d'entendre René Bilas, de l'association vétérinaire Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, qui est l'auteur de l'ouvrage Faire du Sahel un pays de cocagne, le défi agroécologique. Alors justement, ça se rattache bien à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, l'importance de l'agroécologie et les espoirs qu'elle fait naître. Donc de 12 à 14 heures, l'entrée est libre et vous pourrez bien sûr vous restaurer sur place. Ensuite, pour le reste de la semaine, jeudi 23 février à partir de 18h à la salle de la Gerbe, 19 rue Chaptal à Montpellier, une rencontre débat avec Marie Pelletier, historienne, animée par Pierre-Alain Guyot, qui est membre associé de l'ISCRA, les théories du complot, comprendre et agir. C'est organisé par l'Institut social et coopératif de recherche appliquée, Université des savoirs impliqués, dans le cadre de son cycle Laïcité. L'entrée est gratuite sur inscription publication@iskra.org. Vendredi 24 février à 18h30, à l'espace Jacques d'Aragon, c'est le café climat de l'Agence locale de l'énergie. Conférence gesticulée. Quand les nains jouent au géant vert, suivi d'un débat sur la transition énergétique, c'est proposé par l'association Élise et l'entrée est libre. Et puis, je rappelle bien sûr ce dont vous venez de parler, le samedi 25 février de 10h à 17h30 au domaine départemental Pierre-Vive à Montpellier. Reparlons de la COP21 avec COP Décrypte, rendez-vous citoyen pour la planète à ne pas manquer.
Oui, à ne pas manquer, je rajoute à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y aura aussi des représentants de la région et notamment de la DREAL, qui sont donc ces services de l'État qui sont censés mettre en œuvre sur notre territoire les recommandations des conventions internationales. Donc c'est en cela que c'est peut-être un peu particulier et un peu nouveau.
En effet, alors je continue avec le calendrier pour que vous prépariez ce qui va se passer début mars. En effet, vendredi 3 mars, à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela à l'Hôtel de Sully, esplanade Charles de Gaulle, en avant-première de la Journée internationale des droits des femmes, c'est une conférence débat où en sont les femmes en Amérique latine par Olga González, docteur en sociologie, Université Paris Diderot. Elle est membre fondatrice du groupe Aquelar qui milite en faveur des droits des femmes en Amérique latine. C'est organisé par la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale et l'entrée est libre. Enfin, nous vous invitons aussi à une rencontre-débat mercredi 1er mars à 18h30 autour du livre de Bernard Ravenel. Bernard Ravenel est l'ancien président de l'association France-Palestine Solidarité, également ancien président du mouvement contre l'armement atomique, mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté. Il vient de sortir un livre, « Quand la gauche se réinventait, le PSU, un parti visionnaire, 1960-1989 ». Donc, cette rencontre-débat a lieu à l'auditorium du musée Fabre à 18h30, mercredi 1er mars. À bientôt, chers auditeurs. Merci à Patrice Purgé.
Merci beaucoup.